VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Bamako et Abidjan. Voici les titres. La Corée du Nord se dit toujours prête à dialoguer avec Washington, malgré l'annulation par Donald Trump du sommet qui était prévu le 12 juin. 7 morts et plus de 40 disparus après le naufrage d'une embarcation sur une rivière dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Le bilan de l'épidémie de fièvre Ebola a été révisé à la baisse. Et puis Kassé Madi Diabaté, l'un des griots les plus talentueux du continent, s'est éteint hier à Bamako à l'âge de 69 ans. Également dans le monde aujourd'hui, l'économie, un fonds d'urgence de 30 millions de dollars pour aider les pays de la région du Sahel. Et en sport, la finale de la Ligue des champions entre le Real de Madrid et Liverpool. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, le naufrage d'un bateau a fait au moins 7 morts et plus de 42 disparus depuis mercredi nuit. L'accident a eu lieu sur la rivière de Tchoumpa, dans le nord-ouest du pays, une région déjà touchée par une épidémie de fièvre. Les détails avec Anastasie Tudiech.
Les causes de l'accident ne sont pas encore déterminées. Selon plusieurs témoins, l'embarcation, propriété d'un homme d'affaires local, avait plusieurs dizaines de passagers à bord et une grande quantité de marchandises. Le bateau naviguait sans lumière dans la nuit de mercredi à jeudi. Pourtant, une réglementation officielle interdit aux embarcations de fortune de naviguer la nuit sur les eaux congolaises. En l'absence d'un système de transport public organisé sur les nombreux cours d'eau du pays, des particuliers ont investi le secteur du transport fluvial. La majorité de la population utilise ces navires de fortune pour leurs déplacements à cause du faible coût. Les activistes de la société civile dénoncent régulièrement le non-respect par ces exploitants de la réglementation en matière de tonnage et de confort, mais également le laxisme des autorités.
Le bilan de l'épidémie de fièvre Ebola qui s'était déclarée le 8 mai dernier à Bikoro, à 600 km au nord de Kinshasa, est révisé à la baisse. 22 morts et non 25 comme précédemment annoncé. Par ailleurs, 5 militaires congolais ont été tués et 13 blessés hier lors d'une offensive de l'armée contre une base de rebelles ougandais des forces démocratiques alliées dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. La veille, l'armée avait indiqué avoir tué 10 ADN dans une offensive contre ces rebelles ougandais. Toujours en République démocratique du Congo, l'épiscopat a mis en garde contre des appels en faveur d'un troisième mandat du président Joseph Kabila, estimant que cette éventualité conduirait à l'embrasement du pays qui a connu deux guerres ces deux dernières décennies. Au Cameroun, les corps de 8 jeunes hommes ont été découverts jeudi dans la zone de Manka, dans les régions anglophones, dans le nord-ouest du pays. Des photos des corps sans vie ont circulé ce vendredi sur les réseaux sociaux. Vendredi, l'ambassadeur américain Yaoundé avait accusé l'armée et les séparatistes de nombreuses exactions. Il a été par la suite convoqué au ministère camerounais des Affaires étrangères pour des réprimandes. Les magistrats de Doba, dans le sud du Tchad, ont décidé de fermer leur tribunal suite à des tirs survenus mardi par des gendarmes en direction de la voiture d'un avocat transportant 3 de ses clients. Ce genre d'incident est récurrent au Tchad. Les forces de l'ordre viennent souvent dans les locaux des tribunaux, a regretté le secrétaire général du syndicat de magistrats du Tchad. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, passera la journée internationale des casques bleus mardi prochain auprès des troupes de la mission de paix au Mali, communément appelée MINUSMA. C'est la plus coûteuse en vie humaine pour les opérations des Nations Unies. En plein préparatif des élections présidentielles fin juillet, il rencontrera au cours de sa visite de 2 jours le président Ibrahim Boubacar Keïta ainsi que le premier ministre M. Maïga. Le Mali et tous les amoureux de la musique mandingue pleurent Kassé Madi Diabaté, l'une des plus belles voix du continent qui s'en est allée hier de suite d'une longue maladie à l'âge de 69 ans. Ancêtre de Djeli depuis 13 siècles, nous reviendrons sur son parcours dans notre contrepartie magazine. En Côte d'Ivoire, à 2 ans de la fin du mandat d'Alassane Ouattara, une dizaine d'organisations de défense des droits de l'homme demandent au président ivoirien de tout mettre en œuvre pour accélérer les procédures judiciaires liées à la crise post-électorale de 2010-2011. 10 réseaux d'organisations non gouvernementales internationales, dont Amnesty International, ont demandé au Niger la libération et l'abandon de poursuites contre 26 militants de la société civile. Ces derniers sont détenus depuis mars suite à une manifestation interdite qui avait dégénéré à Niamey, un dossier sur lequel nous reviendrons également dans notre partie magazine. Paul Kagame a achevé sa visite de 2 jours en France, un signe que le réchauffement s'accélère entre Paris et Kigali, alors que les relations sont tendues entre les deux capitales depuis le génocide rwandais de 1994. Par ailleurs, le Rwandais Pascal Simbi Kangwa a été condamné à 25 ans de prison pour sa participation au génocide de 1994. La justice française a rejeté son pourvoi en cassation. Le procès de cet ancien capitaine a été le tout premier du genre en France en vertu de la compétence universelle pour les crimes les plus graves liés au génocide. Au Madagascar, la Cour constitutionnelle a ordonné au président de la République de nommer un gouvernement d'union nationale. C'est à la suite d'une saisie par l'opposition pour destituer le président, Éric Manirakiza.
Dans son arrêt, la plus haute instance judiciaire du pays exige au président R. Rajaonara Miampianine de mettre fin aux fonctions du gouvernement et de procéder à la nomination d'un premier ministre de consensus dans un délai de 7 jours. La composition du nouveau gouvernement devra refléter proportionnellement les résultats des dernières élections législatives pour tenter de sortir de la crise qui secoue le pays. Il aura notamment pour tâche d'organiser une élection anticipée cette année, entre mai et septembre. Les élections présidentielles et législatives étaient à l'origine prévues à la fin de l'année. L'opposition avait déposé devant la Cour constitutionnelle une demande de destitution du président. La Cour ne s'est pas directement prononcée sur ce point, mais a ordonné la convocation dans les plus brefs délais de la Haute Cour de justice qui a le mandat de juger le président en exercice et les anciens chefs d'État. Cependant, la Cour n'a pas précisé qui comparaîtrait devant cette juridiction.
Aux Comores, le chef de l'État, Azali Assoumani, est accusé d'abus de pouvoir par l'opposition. Il a assigné à résidence l'ex-président, interdit les manifestations et suspendu la Cour constitutionnelle. Le point avec Marie Benson.
Depuis le 19 mai, l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, au pouvoir de 2006 à 2011, a été placé en résidence surveillée à Moroni, la capitale. Le président comorien, le colonel Azali Assoumani, l'accuse de troubles à l'ordre public. Des centaines de partisans de M. Sambi ont manifesté vendredi, mais ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Élu à la magistrature suprême en avril, M. Assoumani a suspendu la Cour constitutionnelle, disant qu'elle n'avait pas assez de juges nommés. Il a annoncé une réforme constitutionnelle pour le 29 juillet qui pourrait lui permettre de briguer plusieurs mandats successifs. Si la réforme est acceptée, il promet d'organiser une élection présidentielle anticipée en 2019. Pour l'opposition et la société civile, une telle réforme mettrait fin à la République et ouvrirait la voie à une sorte de monarchie. Avant l'institution en 2001 du système de la présidence tournante, les Comores ont souvent été agités par des crises séparatistes et plusieurs coups d'État.
La police sud-africaine a annoncé l'ouverture d'une enquête sur une fraude au Bitcoin dont moins de 70 millions d'euros impliquant la négociation d'un cabinet local d'investissement financier parti sans laisser d'adresse.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord s'est dite vendredi toujours disposée à dialoguer avec Washington malgré l'annulation par Donald Trump du sommet prévu le 12 juin à Singapour. Le locataire de la Maison Blanche a aussi laissé ouverte la possibilité d'un nouveau sommet. Abdourahmane Dia.
Le premier vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréen parle de décision extrêmement regrettable, mais précise que Pyongyang est toujours prêt à s'asseoir face à face à tout moment et de quelque manière que ce soit pour résoudre le problème. L'annulation de cette rencontre tant attendue a été rendue publique hier, le jour même où Pyongyang déclarait avoir complètement démantelé son seul site connu d'essais nucléaires. La Chine, grand allié de Pyongyang, a appelé les deux parties à faire preuve de bonne volonté et de patience. Ce matin, sur Twitter, Le président américain Donald Trump s'est félicité de la réponse plutôt conciliante de la Corée du Nord, disant espérer que tout cela aboutisse à la prospérité et à une paix durable. Les responsables américains ont expliqué la décision du président Trump d'annuler le sommet par une série de promesses non tenues et un profond manque de bonne foi.
Hervé Weinstein s'est rendu ce matin dans un commissariat de Manhattan où il a été inculpé de viol et d'agression sexuelle. L'ex-producteur d'Hollywood devait être présenté à un juge avant d'être libéré après s'être acquitté d'une caution $1 million selon le New York Times. Par ailleurs, Morgan Freeman, l'acteur oscarisé aujourd'hui âgé de 80 ans, est aussi en ligne de mire après des accusations d'harcèlement sexuel. Il a présenté ses excuses pour des allégations formulées par 8 femmes, dont une journaliste de CNN qui évoque des propos déplacés. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. L'actualité économique du continent, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
L'ONU débloque un fonds d'urgence de $30 million pour aider les pays de la région du Sahel à lutter contre la sécheresse et l'insécurité alimentaire. Le Tchad recevra $10 million pour juguler la malnutrition. Le Burkina Faso va bénéficier de $9 million pour maîtriser l'insécurité alimentaire. Le Mali aura $7 million pour mettre en œuvre des opérations d'aide vitale dans les zones les plus exposées à l'insécurité alimentaire. La dernière tranche servira à Mauritanie pour réaliser des provisions de nourriture et d'offrir des services humanitaires. L'ONU indique que $1,37 milliard doivent être investis dans toute la région. Le Crédit Suisse va octroyer à l'Angola une ligne de crédit de $700 millions pour développer des projets stratégiques. Il y a quelques semaines, Luanda avait annoncé une émission d'obligations de $2 milliards sur le marché financier. À cela s'ajoute un prêt de $64 millions pour couvrir les besoins en matière de logistique alimentaire et pharmaceutique, conclu entre la Banque angolaise d'investissement et le ministère des Finances. Reprise des négociations sino-américaines sur le commerce le 2 juin à Pékin. La Chine et les États-Unis ont convenu la semaine dernière un accord sur leurs différends commerciaux. Les droits de douane prohibitifs étaient supposés entrer en vigueur dès le 22 mai sur $50 milliards d'exportations chinoises vers les États-Unis. Les droits de douane prohibitifs étaient supposés entrer en vigueur dès le 22 mai sur $50 milliards d'exportations chinoises vers les États-Unis. Pékin a promis d'augmenter les importations de produits américains sans fixer d'objectifs chiffrés.
C'est à présent l'heure de la page sportive qui nous est présentée ce soir par Yakuba Ouadréogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
C'est le rendez-vous sportif à ne pas manquer demain, la finale de la Ligue des Champions entre le Real de Madrid et Liverpool.
Le Real de Cristiano Ronaldo et de Zinedine Zidane est en lice pour un 3e titre de suite, performance qui n'a plus été réussie en Europe depuis 1976. Et le Bayern Munich, il s'agirait du 5e sacre continental pour CR7 et du 3e en 3 saisons comme entraîneur pour Zizou. Le Real peut s'appuyer justement sur Ronaldo qui pèse déjà 15 buts dans cette édition. En face, Liverpool dispose d'un trio offensif de feu, amené par l'Égyptien Mohamed Salah. Dans son ombre, le Brésilien Roberto Firmino et le Sénégalais Sadio Mané qui réalisent eux aussi la plus belle saison de leur carrière. Real Madrid-Liverpool, c'est demain samedi à 18h45. Temps universel.
Justement pour cette finale, Sadio Mané a pensé à son village natal.
Premier Sénégalais à disputer une finale de Ligue des Champions, Sadio Mané a décidé d'offrir 300 maillots des Reds à son village natal de Bambali au Sénégal. Il y a 2000 habitants dans le village, j'ai voulu que les fans puissent porter ces maillots pour regarder le match, a expliqué le Lion. Et pour ses vacances au pays après la Coupe du Monde, Mané espère ramener une médaille.
Préparation du Mondial 2018, les Lions de l'Atlas quittent le Maroc dimanche pour la Suisse.
Regroupés depuis hier à Rabat, les joueurs de la sélection marocaine vont prendre part à 3 entraînements avant de s'envoler pour un stage à Crans Montana en Suisse. 3 matchs amicaux sont au programme pour les hommes d'Hervé Renard face à l'Ukraine, la Slovaquie et l'Estonie. En Russie, les Lions de l'Atlas pourront compter sur 11 500 supporters qui vont se rendre sur place. D'après le chef du gouvernement marocain Sahdedine El Othman, Le Maroc joue son premier match contre l'Iran le 15 juin avant d'affronter le Portugal le 20 et l'Espagne le 25.
Basketball pour finir, Houston n'est plus qu'à une victoire de la finale NBA.
Juste une victoire pour éliminer le champion en titre Golden State et accéder à la finale NBA. Après son succès à domicile 98-94, les Rockets mènent 3-2 avant le match numéro 6 qui aura lieu demain samedi à Oakland et avant, si nécessaire, le match numéro 7 deux jours plus tard à nouveau à Houston.
Merci beaucoup Yacouba. Et Kiabadou, toujours en votre compagnie, nous passons à présent à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, en raison du virus Ebola, les gens évitent désormais de se saluer de la main ou de s'embrasser dans Mandaka, dans la province de l'Équateur. Les gens ont adopté de nouveaux réflexes qui changent de leur mode de vie habituel. Eddie Isango a joué sur place l'inspecteur de santé de la province, docteur José Mudzambela.
Les mesures générales de prévention ont été annoncées à toute la population. Donc, à l'heure actuelle, on ne se salue pas, hein, on ne s'embrasse pas. Voilà. On ne mange pas les gibiers ou les animaux de la forêt. Ce sont ces dispositions qui ont été prises.
Mais est-ce que les gens suivent cela dans la rue ou dans leur vie de chaque jour?
Bon, là, je pense qu'il faut mener une enquête, essayer de vérifier. Ben, nous pensons que les gens observent, hein, que déjà, sur le terrain, tel que nous voyons, pourquoi il y a cette observation-là de ces mesures? Par exemple, au niveau de l'église, puisque là, à l'église, on est souvent habitué de se saluer à la sortie, à l'entrée. Mais en tout cas, ça a bien observé. Hein. Moi aussi, personnellement, ce dimanche, je suis par l'église. On a observé, hein, les gens essayent un peu d'observer, puisque ça fait de la crainte, hein, de la peur pour attraper cette maladie. Ce qui fait que, bon, nous voyons que les gens observent un peu cette mesure-là.
Les gens mangent généralement à la main et peut-être tous dans un même bol ou dans une même assiette. Est-ce qu'ils ont changé cela?
Bon, ici, on a des cultures mixtes. Hein. Il y en a qui mangent à la main, il y en a qui mangent avec les couverts, hein. Je ne saurais pas les dire d'emblée pour tout le monde comme ça. Donc là, il faut mener une enquête et voir les gens comment ils sont en train de manger. Hein. Comme chez moi, en famille, on ne mange pas la main, hein. nous mangeons avec les couverts.
Et à l'école, comment ça se passe? Quelles sont les habitudes que les gens ont prises là-bas?
Ça, c'est un point très important de la communication qui a ciblé d'abord et qui continue, les leaders communautaires. Donc on a eu à sensibiliser les leaders, entre autres les pasteurs, les chefs religieux des églises, responsables des écoles et d'autres couches de communauté pour répercuter le message. Je pense que les écoles sont les cibles principales qui ont eu à bénéficier et ont continué à sensibiliser pour adopter des comportements responsables. Il y a des lave-mains qui sont posés dans les lieux publics, entre autres les écoles, les églises, etc., pour observer ces mesures-là. Tous les contacts sont suivis avec les relais communautaires.
Et pour les marchands de la viande ou de la nourriture au marché ou sur la rue, quels sont les comportements que les gens adoptent?
La viande de forêt, en tout cas là, hein, il y a une interdiction de ne pas toucher. Bon, il faut passer au niveau des marchés pour vérifier si réellement c'est observé. Hein. Mais du moins, la population est sensibilisée dans ce sens-là.
Docteur José Mudzambela, donc inspecteur de santé de la province de l'Équateur.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
En Côte d'Ivoire, à 2 ans de la fin du mandat d'Alassane Ouattara, une dizaine d'organisations de défense des droits de l'homme demandent au président ivoirien de tout mettre en œuvre pour accélérer les procédures judiciaires liées à la crise post-électorale de 2010-2011. À Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tonkara.
7 ans que la crise post-électorale en Côte d'Ivoire a pris fin et qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. 7 ans également que de nombreuses victimes de cette crise post-électorale attendent que justice soit faite. C'est au nom de ces victimes que ces ONG, dans une lettre ouverte adressée récemment au président ivoirien, lui demandent de tenir ses promesses électorales en matière de justice. Au nombre des signataires de cette lettre, il y a la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, la FIDH, ou la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la LIDO. Pierre Kwasi Adjumani, président de la LIDO.
Nous nous rendons compte que toutes les belles promesses qui ont été faites par le chef d'État n'ont pas été tenues, en tout cas dans le domaine de la justice. À 2 ans de la fin de son mandat, nous lui disons, monsieur le président, attention, les victimes vous attendent.
Pour qu'il y ait un développement harmonieux, il faut que la justice puisse suivre et pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Il faut qu'il y ait une justice, quitte à parce que c'est lui-même qui l'a dit, qu'il y ait une justice pour tous.
L'opposition ivoirienne dit partager l'appel de ses organisations de défense des droits de l'homme. Mais pour Ouattara Nyonzié, président du Rassemblement pour la paix et le partage, le RPP, la justice ivoirienne a les mains liées.
Je ne doute pas de la compétence de nos magistrats, mais ils sont dans un environnement tel qu'ils ne peuvent pas véritablement s'exprimer comme il se doit. Je ne vois pas quel juge va envoyer un mandat à mener à quelqu'un qui se trouve être l'un des piliers de l'administration.
Pour la porte-parole du gouvernement ivoirien, il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance, Anne Désirée Oloto.
Nous sommes dans un état de droit. Il y a tout un mécanisme qui est en train d'être mis en place par nos juridictions. Il faut permettre à la justice de faire toutes les enquêtes nécessaires et à terme, on pourra en tirer les conclusions.
Les ONG de défense des droits de l'homme s'insurgent également contre toute mesure d'amnistie à l'égard des auteurs des crimes commis dans le pays. Pierre Kouassi Adjoumani de la Lido.
S'il y a une loi d'amnistie, donc ça veut dire qu'il y aura une totale impunité en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous que le chef de l'État d'alors, le grand Laurent Gbagbo, a pris une amnistie, mais cela n'a pas empêché qu'il y ait cette guerre. S'il y a amnistie, c'est que les victimes seront laissées pour compte.
Sur la question de l'amnistie, l'opposition voit les choses autrement. Ouattara Nyonzié, président du RPP.
Des gens qui se promènent sont mis en cause par des documents commandités par le gouvernement lui-même et ils sont intouchables. Au moins, s'il y a un acte d'amnistie, on ne les a pas envoyés en prison, on ne les a pas jugés parce qu'il y a un acte d'amnistie. Au moins, il y a une raison. C'est ça l'idéal. Ou alors, on libère tous ceux qui sont en prison parce qu'il y en a qui sont intouchables.
La crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire a fait officiellement plus de 3000 morts. Une commission nationale d'enquête mise en place par le président Ouattara avait dans un rapport rendu public conclu à la responsabilité des partisans du président Alassane Ouattara et de son prédécesseur Laurent Gbagbo. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
La voix d'or du mandin cassé, Madi Diabaté, a tiré sa révérence hier à l'âge de 69 ans suite à une longue maladie. Né en 1949 à Kéla, au Mali, près de la frontière guinéenne, Cassé Madi Diabaté, dont l'enterrement est prévu demain, est parti, mais laisse derrière lui un héritage musical assez impressionnant. Pour en savoir plus sur l'homme et son parcours, Modibo Dembélé a joint son frère, Amara Diabaté, qui l'accompagnait dans toutes ses odyssées musicales.
Cassé Madi était un djeli, un griot, né à Kéla, grandi à Kéla. Il a tout fait pour ses parents. Son papa s'appelait Feu Djemoussa Diabaté. Sa maman, elle aussi, elle a disparu. Ça fait un bon moment. Elle s'appelait Jontan Kouyaté. Cassé Madi a toujours occupé, depuis que le gouvernement malien, sinon l'État malien, a fait la découverte de Cassé Madi. Cassé Madi, il est parmi les grands de la musique mandingue, sinon de la musique malienne.
Quel a été son apport, surtout dans l'histoire de la musique malienne?
Cassé Madi a formé beaucoup de jeunes musiciens, c'est-à-dire des jeunes chanteurs. Aujourd'hui, ils commencent à s'imposer sur le plan national et sur le plan international. Je prends l'exemple sur sa fille, Awa Cassé Madi. Je prends l'exemple sur un de ses garçons qui s'appelle le vieux Cassé Madi. Je prends un exemple sur un de ses frères cadets qui s'appelle Zoumana Cassé Madi. Donc vraiment, Cassé Madi, c'était un bibliothèque. Cassé Madi, c'était un grand de la musique malienne. Cassé Madi, il a laissé des œuvres pour nous. Inch'Allah, la relève avec votre appui, avec la bénédiction des parents. Je sais que la relève est assurée.
Qu'est-ce que Cassé Madi laisse derrière lui en tant qu'héritage culturel pour la génération future?
Ce que Cassé Madi a laissé derrière lui, vraiment, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est ce que j'ai dit. Il a formé beaucoup de ses enfants. Il a formé beaucoup de ses frères. Il a formé beaucoup de ses amis, de ses proches. Donc, Cassé Madi, il a fait des œuvres. C'est-à-dire, il n'a pas fait sa vie cadeau. C'est-à-dire, un homme, un être humain, une fois que tu es né, il ne faut pas vivre, c'est-à-dire, comme ça. Il faut vivre pour servir les gens. Cassé Madi a servi le Mandé, il a servi le Mali et Ambe Douaouké. Vraiment, que son âme se repose en paix.
Vous venez d'entendre Amara Diabaté, frère du défunt Kassé Madi Diabaté. On se quitte d'ailleurs sur sa chanson Simbo. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Sims Loumami. À la console, Sidrak Franklin. Et à la présentation, moi-même, Eki Abadou. On reste en contact via notre site voafrique.com pour une actualité en direct 24 heures sur 24. Excellente suite de programme en notre compagnie.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont officiellement transféré le 14 mai leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, capitale d'Israël. En déplaçant notre ambassade à Jérusalem, nous avons prouvé au monde, une fois de plus, que l'on peut faire confiance aux États-Unis, a déclaré le conseiller spécial du président Trump, Jared Kushner. Nous nous tenons aux côtés de nos amis et de nos alliés, et plus que tout, nous avons montré que les États-Unis d'Amérique font ce qui est juste, et nous l'avons fait, a-t-il ajouté. En prenant cette mesure, a dit M. Kushner, les États-Unis ont choisi de renforcer les liens entre les États-Unis et Israël. Ces liens ont été forgés à travers une histoire partagée, des intérêts partagés et immortalisés à travers des principes partagés. Les États-Unis soutiennent aux côtés d'Israël parce que les deux pays croient aux droits humains. Nous nous tenons ensemble parce que nous croyons que la démocratie mérite d'être défendue. Et les États-Unis soutiennent aux côtés d'Israël parce que nous pensons et savons que cela est juste, a déclaré M. Kushner. Israël prouve chaque jour la puissance illimitée de la liberté. Cette terre est la seule au Moyen-Orient où juifs, musulmans et chrétiens et des gens de toutes confessions religieuses peuvent vivre et prier conformément à leurs croyances, a dit M. Kushner. Les États-Unis demeurent engagés pour une paix durable et sont prêts à soutenir un accord de paix de toutes les manières qu'ils peuvent, a déclaré M. Kushner. Nous croyons qu'il est possible pour les deux camps d'obtenir plus qu'ils ne concèdent afin que tous les gens puissent vivre en paix, à l'abri du danger, libres de toute peur et à même de poursuivre leurs rêves. Les États-Unis reconnaissent que la question de Jérusalem est délicate et continuent d'appeler toutes les parties à maintenir le statu quo concernant les lieux saints de cette ville. Alors qu'Israël entame la 701e année de son existence, une nouvelle page est tournée dans la quête d'une paix durable, a déclaré M. Kouchner. Je pense que la paix est à portée de main si nous osons croire que l'avenir sera différent du passé, a dit M. Kouchner. Le chemin ne sera pas difficile, sera marqué par des moments et des décisions difficiles. Mais si nous avons des grands rêves, si nous menons avec courage, nous pouvons changer des trajectoires des millions de personnes, passant du désespoir à l'espoir sans limite.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.